C'est assez paradoxal. Il y a un contraste incroyable entre le rejet au niveau anténatal des personnes handicapées, parce que dès qu'on dépiste, dès qu'on diagnostique un handicap avant la naissance, un handicap qu'on considère comme incurable et comme grave, et la trisomie 21 est le meilleur exemple. Il y en a d'autres, mais ils sont moins nombreux en nombre. Le problème de la trisomie, c'est que ce n'est pas une pathologie rare, si vous voulez. C'est une conception sur 700, donc ça revient assez vite. Les anencéphalies, c'est plus grave, vous voyez. Mais dès qu'il y a une pathologie grave et incurable aujourd'hui, au moment du diagnostic, la règle, c'est l'avortement. L'exception, c'est de garder l'enfant. Pour la trisomie 21, 96% des enfants trisomiques sont avortés, donc c'est la quasi-totalité. C'est une population de patients qui a quasiment disparu. Bon, il y a pratiquement que les cathos qui continuent à donner naissance des enfants handicapés. Donc je dis ça de manière un peu ramassée, ça demanderait beaucoup de nuances, mais la situation n'est pas brillante. Alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en revanche, quand les personnes sont nées, alors la télévision convoque très souvent les personnes trisomiques, le cinéma utilise de plus en plus les personnes trisomiques dans les films, et on les utilise d'autant plus qu'on ne voudrait surtout pas en avoir chez soi. Donc c'est très paradoxal comme situation, c'est un peu le bouc émissaire. C'est un peu le bouc émissaire qu'on sacrifie, parce qu'il est porteur de toutes nos angoisses, toutes nos craintes, etc. Et en même temps, on a une dette vis-à-vis du bouc émissaire, parce que c'est lui qui charge tous les péchés, et on le sacrifie, le bouc émissaire. Voilà, c'est l'histoire de la rédemption. Le bouc émissaire, l'agneau innocent, il est chargé des péchés, et on le sacrifie. Et l'enfant trisomique, il est sacrifié. Alors, il est tellement sacrifié qu'au fond, on lui est presque redevable, et c'est pour ça qu'on le met à la télévision une fois de temps en temps ou dans les films. Quand il est né, on s'occupe des enfants ou des personnes handicapées. Quand elles ne sont pas nées, on fait tout pour qu'elles ne naissent pas. Ça n'a pas changé. Et c'est plutôt un phénomène qui s'accélère, malheureusement.
Le 3 décembre est une journée dédiée aux personnes handicapées. En quoi cette journée est importante selon vous ?
Elle est importante pour surtout changer le regard sur les personnes handicapées. Ce regard en profondeur qu'il faut changer, il a été bien étudié pendant cette conférence du Conseil pour la santé, parce que on s'aperçoit que tout ce qu'on peut faire techniquement aujourd'hui, grâce à la médecine, grâce à la science, c'est beaucoup, hein, et c'est beaucoup plus qu'avant. Mais si on n'a pas changé notre regard sur l'autre, sur la personne, ça peut être une série de services techniques qui sont rendus, et au fond, on n'a pas vraiment soigné la personne. La personne, ce dont elle souffre, c'est surtout de ne pas être regardée comme une autre personne, d'être regardée quelquefois comme un sous-homme ou une sous-femme. C'est ce regard-là qui est blessant, plus que le handicap lui-même. Là, je ne parle pas que de la trisomie. Regardez le regard qu'on a porté sur les lépreux, ou qu'on peut-être encore sur les lépreux. Le lépreux, sa lèpre était assimilée au péché aussi. S'il était lépreux, c'est parce qu'il était pécheur, ou parce que ses parents avaient péché. Dans l'Évangile, on dit ça. Et pour la trisomie, c'était la même chose d'ailleurs. Hein. On accusait les parents d'avoir eu des comportements troubles qui avaient engendré cette naissance d'un enfant anormal. Donc c'est ce regard-là qu'il faut changer. Et c'est ça qui guérit au fond la personne, bien plus que la technique. Alors bien sûr, il faut aussi la technique pour améliorer le quotidien. Et puis je pense que les personnes trisomiques, quand on leur rendra plus d'aptitudes intellectuelles, ce sera mieux pour elles. Elles pourront s'insérer dans la vie, travailler, aller à l'école, apprendre à lire, à parler normalement, à compter, etc. Bien sûr. Mais la première des choses à faire, c'est changer le regard et la relation que nous avons avec l'autre. Et une journée comme celle que vous évoquez, évidemment, est essentielle pour ça. C'est bien plus important encore que la technique.
Et comment changer ce regard, selon vous ?
Il faut apprendre à ne pas avoir peur. Je pense que beaucoup de nos attitudes de résistance, de réticence, sont liées à la peur et à une conception aujourd'hui de la vie qui est divulguée par les médias, par la télévision, par la culture ambiante, conception de la vie qui n'est pas la vie en vérité. La vie, ce n'est pas une quête éperdue d'hédonisme. Ce n'est pas ça. L'hédonisme ne rend pas heureux. Il n'y a pas que les grands, beaux, forts, intelligents, riches qui sont heureux. L'histoire nous montre d'ailleurs plutôt le contraire. Et le sens de la vie, c'est d'être capable d'aimer, d'être aimé et d'entrer en relation avec son prochain, et ça, les personnes touchées par handicap, quelles qu'elles soient, sont parfaitement capables de le vivre aussi bien que nous, même quelquefois mieux, parce qu'il y a un certain nombre de choses dont ils sont débarrassés, de quêtes inutiles dont ils ne s'encombrent pas, et ils vont directement au sens de la vie pour beaucoup d'entre eux. Donc je pense que notre regard porté sur la personne handicapée est lié à la conception de la vie que nous avons et qui n'est pas la bonne. Nous sommes destinés à la vie éternelle, à un face-à-face avec Dieu. Nous avons été créés par Dieu, nous avons été rachetés par Dieu, et nous n'attendons qu'une chose, c'est de le retrouver, de le voir. C'est ça qui est important. Voilà. Le reste, c'est très secondaire. Alors, Là-dessus, on peut se retrouver avec les personnes handicapées beaucoup plus, parce qu'elles ont, encore une fois, élaguées, hein, les choses inutiles. Mais on est embarrassé par des quantités de choses, et ces quantités de choses nous laissent à penser qu'au fond, c'est parce qu'on sera en bonne santé qu'on sera heureux, et la bonne santé du corps, surtout. Mais tout ça, c'est absolument faux, c'est même le contraire. Cette notion de la santé assimilée au bonheur, cette obligation du bonheur résumée par une bonne santé, et d'être beau, enfin, au canon, avec les canons de la mode, c'est une illusion complète. Enfin, on le voit bien. Il n'y a jamais eu autant plus de gens malheureux qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre pays, la France. Donc, c'est assez facile de rentrer dans cette vérité de la relation avec l'autre, justement, si on se recentre sur la véritable signification de la vie et qu'on n'a pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Au contraire, lorsqu'on a les mêmes perspectives de la vie éternelle.